L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local, la toute première de l'année 2021. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde et bonne année.
Et oui, merci, bonne année à toi Claire et bonne année à vous tous qui nous écoutez. Hein, on repart évidemment pour une nouvelle année qu'on espère, je pense que c'est un peu le souhait de tout le monde, c'est pas très original, hein, une meilleure année que celle de 2020 évidemment. Mais nous, en tout cas, on va continuer hein, à faire à mettre en avant la Mayenne, à faire des reportages, des interviews. Et puis voilà, n'hésitez pas, vous aussi, toujours hein, à nous faire remonter si vous avez des informations, des idées. Toujours, en tout cas, on redira un petit peu nos coordonnées en fin d'émission, mais n'hésitez pas. Et donc, on vous le rappelle, une très bonne année 2021. Aujourd'hui, Claire, on va parler de chaussettes fabriquées en fil de pêche, écolo et confortable, rassurez-vous. Hein, c'est l'initiative d'un jeune entrepreneur mayennais que tu as interrogé d'ailleurs. À Laval, la plateforme Talents Migrants vient en aide à la population migrante, bien sûr, mais aussi aux bénévoles des associations et aux entreprises qui voudraient les accueillir. Comment ça marche? Réponse avec Marie Blin, la coordinatrice départementale. Et notre feuilleton cette semaine vous emmène dans la réserve du musée scientifique de Laval, une partie inaccessible au public habituellement, qui regorge de trésors, vous allez l'entendre.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, coup d'envoi de la campagne de vaccination de la Covid-19 en Mayenne.
Et notamment ces prochains jours à l'EHPAD de Bouer, dans le sud du département. Deux autres établissements pour personnes âgées sont concernés. Le consentement des résidents a été recueilli fin décembre et les vaccinations vont donc commencer cette semaine pour s'étaler jusqu'à fin février. Une organisation de la campagne de vaccination inexplicable, impardonnable et incompréhensible pour Joël Ballandreau qui pointe le très faible nombre de vaccination qui a été fait jusqu'à présent et qui souhaiterait que les maires soient plus impliqués dans cette organisation.
Le CCAS de Laval s'interroge sur l'impact du confinement sur les personnes âgées.
Une enquête a été menée en octobre auprès de 139 bénéficiaires du CCAS de la ville. Globalement, le confinement n'aurait pas changé les habitudes de vie quotidiennes à domicile et les suivis médicaux. En revanche, les personnes interrogées expriment plusieurs craintes. Celle de sortir seule, le sentiment de vulnérabilité et de fragilité face au virus, la dégradation de l'état physique général et la peur de chute au domicile ou à l'extérieur.
Plusieurs Mayennais distingués dans l'Ordre national du mérite.
Il s'agit du président de la protection civile Rémi Besson, que nous avions d'ailleurs interrogé, de l'élue lavalloise Marie-Cécile Clavreul, du médecin de Mayenne Luc Duquesnel, la déléguée en Mayenne de l'ARS des Pays de la Loire Valérie Jouet, la fondatrice de l'entreprise L'Effet Papillon Mélanie Perron, que tu avais interrogé Claire, et le chef du service réanimation de l'hôpital de Laval, le docteur Yacine.
La ville de Château-Gontier cherche ses animateurs pour l'été.
Oui, si vous avez envie de travailler dans les accueils de loisirs et espaces jeunes de la ville cet été, c'est le moment de postuler. Les dossiers de candidature sont en ligne sur le site ville.châteaugontier.fr. À envoyer compléter avant le samedi 16 janvier par mail à rh@châteaugontier.fr ou à déposer au service des ressources humaines à l'hôtel de ville de Château-Gontier.
Et ma partie préférée, Marie, la météo, un léger manteau blanc ce matin.
Et oui Claire, je ne sais pas si tu l'as vu, en tout cas c'était très léger hein, du côté de Château-Gontier. Mais Météo France a placé la Mayenne en vigilance jaune, neige et verglas. Cette alerte qui se terminait donc ce midi avec des températures, vous l'auriez constaté, autour de 0 moins 1 degré, de la pluie et de la neige, surtout au nord du département. Météo France conseillait en voiture de se méfier du regel sur les chaussées humides.
Des idées pour animer le Tour de France en Mayenne?
Une adresse mail a été lancée par le conseil départemental en amont de la 5e étape du Tour en Mayenne le 30 juin prochain. Le contre-la-montre reliera Changé à Laval. Pour participer à l'animation de la Grande Boucle et partager vos idées, n'hésitez pas à utiliser ce mail tourdefrance@lamayenne.fr.
Sur la route du Vendée Globe, 4 skippers ont passé le cap Horn.
Après le leader Yannick Bestaven et son poursuivant Charlie Dalin, c'est au tour de Thomas Ruyant et de Damien Seguin de passer cette nuit le cap Horn au sud du continent américain. Sur son bateau VNB Mayenne, Maxime Sorel est 9e, il va devoir lui attendre un petit peu pour passer ce cap Horn. Il est dans le groupe des poursuivants à 710 000 nautiques du premier. L'entreprise 100% mayennaise Pandouce, spécialisée dans la chaussette sportive, a développé depuis peu une chaussette verte à partir de filets de pêche recyclés. Timothée Cheminot, l'un des trois fondateurs de l'entreprise, nous explique le concept.
pour la petite histoire, nous, on a lancé l'entreprise grâce à Ulule. En fait, au tout début, on avait eu l'idée de lancer une marque de chaussettes. On savait pas exactement comment la lancer. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas soumettre l'idée d'une chaussette de sport sur Ulule. Et en fait, notre chaussette a rencontré un grand succès. Avec l'argent qu'on a récolté sur la plateforme, on a pu lancer 3 modèles qu'on a ensuite vendus. Et puis avec l'argent de ces 3 modèles vendus, on a fait encore 3 modèles et puis ainsi de suite. Aujourd'hui, on a une vingtaine de paires de chaussettes disponibles sur notre site internet. Et voilà. Et à la fin de l'année 2020, on s'est dit, bon, bah, on va retourner sur Ulule pour retester l'idée avec une chaussette éco-responsable. Et voilà, aujourd'hui, enfin, ça fait déjà 2 semaines qu'on a lancé la campagne Ulule pour la chaussette verte. En fait, cette chaussette, on l'a développée avec du fil recyclé. C'est du fil, en fait, qui est conçu à base de plastique qu'on récupère dans les océans et avec lesquels on fait du fil. Donc, ce fil, on l'a récupéré et puis on en a fait une chaussette. Une chaussette blanche, mais qui a pour particularité d'être éco-responsable, enfin en tout cas en recyclé. L'idée, elle est venue peu à peu, parce que depuis le début de l'aventure Pente Douce, nous on essaye de vraiment de faire attention à notre consommation de plastique, de vraiment recycler tout ce qu'on peut. On utilise des cartons pour les envois, le minimum de plastique pour les emballages. Avec nos partenaires, on essaye de faire que du dématérialisé, donc c'est vraiment une volonté qu'on a depuis le début d'être au maximum éco-responsable. On voit vraiment pas la différence avec les autres chaussettes, si ce n'est que en fait à l'intérieur c'est des microplastiques qui viennent tout droit de la mer. On a la chance d'être moyenne, pour le coup, j'ose le dire, parce qu'en fait dès le début on a été accompagné par la Technopole. À l'intérieur de cet organisme, ils ont un pôle qui accompagne les micro-entreprises, donc qui les accompagne avec du conseil. On a une équipe qui nous accompagne depuis le début. Et aussi, ils nous proposent de nous accueillir dans leurs locaux. On a la chance de pouvoir travailler en coworking avec d'autres jeunes entreprises, pouvoir s'aider, donner des conseils. Donc, en fait, il y a tout un écosystème autour de nous qui nous permet de grandir. Si on n'avait pas été accompagné par la Technopole, je ne sais pas où on en serait, mais en tout cas, c'est une vraie chance pour nous. Toutes les chaussettes sont à 20 euros. C'est le prix du marché, en fait. Donc, tous nos concurrents, qu'ils soient français ou étrangers, tourne autour de ce prix-là, 20 euros une chaussette en polyamide, c'est ce qui se pratique dans les magasins. Alors nous, on a la chance, ou plutôt le défi de les fabriquer en France. Ça engendre pas mal de contraintes, mais c'est aussi notre raison de continuer. C'était le premier de nos souhaits, c'était de pouvoir faire nos chaussettes en France. Donc on va continuer comme ça.
Et si vous êtes intéressé par ces fameuses chaussettes, rendez-vous sur le site Ulule et tapez tout simplement « la chaussette verte ». La plateforme Talents Migrants va bientôt souffler sa première bougie ici à Laval. Quelles sont ses missions ? Réponse d'ici 3 minutes, juste après avoir écouté Vampire Weekend avec Everlasting Arms.
You'd be fighting by the open line, fighting by the
Vous êtes bien sur l'autre radio à écouter votre quotidienne, l'agité du local. C'était Vampire Weekend avec Everlasting Arms. Il y a près d'un an était créée la plateforme Talents Migrants en Mayenne à Laval. Quel bilan depuis le début, qui accompagne-t-elle et pour quelle mission? Réponse avec l'une de ses responsables. Marie Blin, bonjour. Vous êtes donc chargée de mission dans l'animation départementale de la plateforme Talents Migrants à Laval, une plateforme créée en février 2020. Pourquoi justement a-t-elle été créée?
Alors cette plateforme, elle vient déjà de différents constats mis en place par, enfin en tout cas observés par les structures qui à la fois accompagnent le public migrant et qui les hébergent. Mais c'est surtout un projet qui a été remporté par Inalta Formation après un appel à projet de l'État.
Parce que justement, il y avait un besoin en tout cas d'aide, d'accompagnement aux migrants. Qu'est-ce qui a poussé la création de ce projet?
Alors, je n'étais pas à l'origine du projet au moment où ça a été réfléchi. Ce que je peux vous en dire, c'est qu'effectivement, il y a un besoin d'accompagnement, en fait, d'informations, je dirais, tout type d'informations autour du public issu de l'immigration sur des démarches précises liées notamment à différentes thématiques ou en tout cas ce qu'on appelle nous les freins périphériques à l'emploi notamment, la mobilité, la linguistique, la formation professionnelle, mais aussi tout ce qui traite du logement, de la santé, de la vie familiale et sociale par exemple.
Et justement, parmi vos missions, il y a vraiment tout cet accompagnement qui peut être proposé aux migrants?
Oui, alors il faut savoir que la plateforme Talents Migrants, son objectif c'est de proposer un accompagnement afin de favoriser et faciliter l'insertion sociale et professionnelle du public migrant en Mayenne. Donc effectivement notre objectif final c'est une entrée à la fois en formation et ou sur le marché de l'emploi, idéalement le marché de l'emploi. Mais la plateforme a plusieurs missions, elle est d'abord centre de ressources. Centre de ressources pour qui? Elle, pour le public du département. Elle est là pour informer et orienter autour des questions qui pourraient se poser sur, comme je disais, les thématiques autour du public migratoire. Et c'est un centre de ressources qui est ouvert pour tout le monde, à la fois le public, mais également les référents sociaux professionnels, les bénévoles et les entreprises qui parfois ont au sein de leurs effectifs une personne étrangères, pour qui il y a des questions qui se posent sur l'accompagnement social ou même juste des questions administratives, on peut être sollicité pour ce genre de questions.
Donc là, ce sera vraiment de manière plus ponctuelle sur une question. Et après, vous proposez aussi un accompagnement plus personnalisé, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Qui, justement, peut bénéficier de cet accompagnement?
Alors, effectivement, a priori, le premier degré d'information peut s'adresser à tout type de public. La plateforme propose également un accompagnement de proximité, voilà, toujours pour accompagner le public à l'insertion sociale et professionnelle, mais cette contractualisation, en tout cas cet accompagnement, se formalise sous l'objet d'un contrat qui est passé à la fois avec le public, mais qui est passé aussi en accord avec le référent social et professionnel, puisque la plateforme n'est pas là pour remplacer, mais elle est vraiment là pour proposer une complémentarité des accompagnements. Et ce public en particulier, c'est un public donc de bénéficiaires de la protection internationale. Ce qui veut dire, c'est voilà toutes les personnes qui ont un statut en cours de régularisation, des personnes réfugiées, des personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire, les personnes, comme je disais, régularisées. Et c'est vraiment ce type de personne qui peut bénéficier d'un accompagnement de proximité récurrent, régulier, parce que c'est aussi le public pour lequel on a des accords avec l'État qui nous finance.
Depuis le début de cette plateforme, vous avez accompagné combien de personnes?
Alors, on a accueilli, informé sur le public, grand public, près d'une centaine de personnes. Après, sur l'accompagnement de proximité, donc la contractualisation, entre guillemets, qu'on peut appeler, on est sur un chiffre un peu moins important parce que toutes les personnes qui nous sollicitent ne rentrent pas dans le cadre du statut éligible, entre guillemets, ou bien n'ont pas des besoins qui nécessitent un accompagnement régulier. Donc on est sur un plus petit chiffre.
Parmi en tout cas vos missions, il y a aussi vraiment une veille sur les dispositifs qui peuvent être mis en place dans le département par rapport à cette population migrante. Votre objectif, c'est aussi de recenser ce qui existe et les manques, bien sûr.
Oui, effectivement, dans les missions que je citais, il y avait voilà, c'est, ce besoin de enfin, en tout cas d'identifier, donc de faire une veille sur ce qui existe aujourd'hui, puisque la Mayenne bénéficie de dispositifs très riches, très nombreux, et c'est vraiment une force pour le département et pour le public. Et l'idée, voilà, c'est de faciliter, cette veille permettrait de faciliter l'interconnaissance entre les dispositifs et les acteurs, afin d'imaginer une meilleure articulation pour le public, afin d'éviter une rupture de parcours de ce public, qui parfois passe d'un dispositif à un autre, et il y a des besoins en relais, entre guillemets, ou en information de la part de ce public. Surtout qu'on est sur le public, notamment, donc là, sur les personnes qui peuvent bénéficier de la contractualisation. Ce sont des publics qui, pour nous, rentrent dans un cadre de primo-arrivants, donc qui sont depuis moins de 5 ans sur le territoire, ou qui ont bénéficié de leur régularisation depuis moins de 5 ans. Donc, vous voyez, c'est quand même des personnes qui... voilà, qui sont entre guillemets assez jeunes, qui n'ont peut-être parfois jeunes dans le sens jeunes sur le territoire, qui ont besoin d'accompagnement et d'orientation dans les différents dispositifs auxquels ils peuvent accéder.
Et quels sont les principaux besoins en général? On vient vous voir pour quelles raisons?
Alors la première question en général des personnes qui viennent nous voir, c'est je cherche un travail, je veux travailler. On voit bien que c'est vraiment une réelle motivation de ce public-là. Nous, on en est certains parce que c'est aussi notre travail, mais c'est vraiment l'objectif. Donc nous, on est là aussi pour écouter la parole de ces personnes. C'est-à-dire que l'idée, c'est donc d'accompagner en tout cas leur projet. Et dans cette démarche et dans notre travail, c'est aussi d'identifier, grâce à un diagnostic global de leur situation, les freins qui les empêchent aujourd'hui de rentrer en emploi. Je vous parlais tout à l'heure des freins périphériques qui correspondent, voilà, par exemple à la mobilité ou à la non-maîtrise ou la faible maîtrise de la langue française, ou j'aimerais faire ce métier mais il me manque peut-être un bout de formation ou de formation professionnelle, etc. Donc voilà, en général, l'entrée, la porte d'entrée, c'est l'emploi, c'est vraiment ce qu'ils souhaitent faire. Et nous, on observe avec tout le public qu'on a accueilli, c'est que les principaux freins aujourd'hui, a priori, qui les empêchent d'entrer en emploi, ça serait lié à la langue, à la non-maîtrise du français et à la mobilité sur le département de la Mayenne. On considère aussi qu'une personne qui n'a pas de logement fixe, c'est un problème. Tout est un problème en vérité, mais il faut quand même se dire qu'il y a des choses sur lesquelles on peut parfois... il y a des dispositifs, entre guillemets, qui sont là, disponibles pour lever notamment les freins linguistiques et les freins en mobilité. Donc c'est ce qu'on essaye aussi de mobiliser très rapidement dans le parcours de la personne.
Et parmi les personnes que vous avez accompagnées là depuis le début de l'année dernière, est-ce qu'il y a un ou deux parcours qui ont un peu retenu votre attention, où vous avez vu vraiment la progression de ces personnes?
C'est toujours compliqué avec un public qui est parfois difficilement identifiable en fonction de son parcours migratoire, en fonction de la manière dont il est arrivé sur le territoire, de pouvoir les identifier. Le dernier exemple, c'est une personne donc qui a le statut de réfugié depuis 2 ans, mais voilà, il est assez mobile sur le département ou assez mobile sur la France. C'est une personne qui ne bénéficiait pas d'un logement pendant un certain temps. Et c'est vrai que au moment où il a identifié la plateforme, on a pu en lien et en complémentarité avec sa référente sociale. On a pu lui trouver un logement autonome, il a pu rentrer aussi en formation de français. Donc voilà, en très peu de temps, sa situation s'est vraiment vraiment améliorée. Donc c'est un jeune en plus, donc voilà, c'est quelqu'un qui a 24 ans, donc c'est vraiment un jeune homme. Donc voilà, c'est une évolution positive et assez rapide, et on voit bien que c'est l'interconnaissance qui favorise aussi l'insertion et le parcours facilité. C'est ce qu'on cherche, nous, c'est vraiment dans le cas de ce jeune homme, c'est la complémentarité avec son référent social qui a permis de pouvoir avancer rapidement sur des démarches.
Donc en tout cas, oui, vous avez vu des résultats pour ce jeune homme. Cette plateforme, c'est une première dans la région ou il y en a d'autres qui existent ailleurs?
Alors, Inalta Formation, donc, qui est le porteur du projet, étant situé également en Sarthe, il y a 2 plateformes aujourd'hui. En Mayenne et en Sarthe, on s'appelle toutes les 2 plateformes Talents Migrants. Et là aussi, pour nous, c'est riche puisque ça permet une complémentarité aussi des dispositifs et de toutes les réflexions qu'on peut avoir sur des projets à mener. Prochainement, un dispositif de ce type sera aussi développé en Maine-et-Loire. Donc, on commence un petit peu à devenir régional. Après, je suis sûre que des dispositifs un petit peu similaires existent en France. Mais a priori, en Mayenne, il n'y avait rien de ce type réellement, en termes de plateforme, j'entends, qui existait.
Et là, quels sont vos objectifs pour l'année 2021 ?
Alors, pour l'année 2021, on a beaucoup, beaucoup d'objectifs, puisque comme nous, les portes de notre dispositif ont ouvert en février 2020 et avec la situation sanitaire que tout le monde connaît, ça a été un petit peu compliqué à la fois pour accueillir plus de public et puis faire davantage de rencontres aussi avec les acteurs et les professionnels et bénévoles du terrain. Donc c'est un de nos objectifs 2021, c'est aller encore plus à la rencontre des acteurs du département, essayer de faire connaître un maximum encore la plateforme Talents Migrants pour accueillir encore plus de public, informer encore plus et favoriser voilà tout le partage d'informations nécessaires au public, aux professionnels, mais surtout aux entreprises, puisqu'on est quand même aussi sur un département en recherche de main-d'œuvre, en recherche, voilà, on est sur des entreprises qui recherchent énormément, et nous, notre public, il est vraiment très motivé, avec beaucoup de compétences à mettre à disposition, donc voilà, encore plus de projets dans cet objectif-là.
Qu'on soit aussi bien migrant ou bien bénévole dans une association ou chef d'entreprise, comment est-ce qu'on peut vous contacter ?
Alors, vous pouvez nous contacter alors déjà tous les jours, du lundi au jeudi, tous les jours sauf le vendredi. Ça peut changer, mais en tout cas, aujourd'hui, on fait des permanences téléphoniques le matin en priorité, parce qu'on ne peut plus recevoir, avec les mesures sanitaires, on ne peut plus recevoir comme ça, librement, on est obligé de prendre un rendez-vous. Donc le numéro à contacter pour obtenir un rendez-vous ou pour obtenir une information, c'est le 06 03 47 53 86. Donc ça, c'est le numéro de téléphone donc de la permanence de ma collègue Gaëlle Blanchet. Sinon, vous pouvez nous joindre par mail à mayenne@ptm, plateforme talent migrant, 5372.fr. Donc mayenne@ptm5372.fr. Et nous, nos locaux sont situés au quartier Ferrier, juste derrière le pôle emploi du quartier Ferrier. On est au 7 rue de la Coucherie. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, entre 9h et 17h, vous pouvez appeler pour avoir une information ou prendre un rendez-vous en fonction de la situation. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Marie Blin d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Et on rappelle en tout cas le numéro de téléphone pour joindre la plateforme Talents Migrants, c'est le 06 03 47 53 86. Une petite pause musicale et on revient dans quelques minutes, juste le temps d'écouter Marie-Flore avec son morceau QCC.
Tes caresses, je préfère que tu me blesses. T'es déjà loin du rivage, en sevrage sur la plage. Chez toi, j'emmène pas large. Chez toi, sixième étage, je suis prise d'envie sauvage, clair-obscur, caravage. Dans mes yeux, c'est l'automatique arrosage. Avec la face de Reagan, et si tu veux, je te dépanne. Moi, je connais toutes tes failles. Soirée paille, on pagaille, c'est pas gay, tu te fais mal. Moi, con que t'as pas d'âme, mais moi, je veux être ta femme. Tout mon corps te réclame. Dans mon cœur, c'est l'automatique arrosage. Et si tu veux, on parle de nous. Sauf si tu décides qu'on s'en fout.
Que si tu crèves, c'est rien du tout. une pipe de plus que je taille. J'ai pas besoin de pistache, c'est que c'est toi qui me ravages. Pas moyen que je te partage. Dans ton pieu seul, l'automatique arrosage. Oui, moi j'aimerais qu'on parle de nous. Oui, moi j'aimerais qu'on parle de nous. Oui, moi pour toi je suis prête à tout. Oui, moi pour toi je suis prête à tout. À te mentir, prétendre que je m'en fous. À te mentir, prétendre que je m'en fous. Que si tu crèves, c'est rien du tout. 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 Si tu veux, on parle de rien. On reste comme ça, on est bien. Dis-moi juste si on se voit demain. Et si tu veux, on parle de nous. Sauf si tu décides qu'on s'en fout. Oui, moi pour toi, je suis prête à tout. Oui, moi je tente le tout pour le tout. Oui, moi j'aimerais qu'on parle de nous.
Oui, moi j'aimerais qu'on parle de nous.
Oui, moi pour toi, je suis prête à tout.
Oui, moi pour toi, je suis prête à tout.
À te mentir, prétendre que je m'en fous.
À te mentir, prétendre que je m'en fous.
Que si tu crèves, c'est rien du tout.
Que si tu crèves, c'est rien du tout.
Que si tu crèves, c'est rien du tout.
Moi si tu crèves, c'est rien du tout.
C'était Marie-Flore sur l'autre radio dans votre émission quotidienne L'Agité du local. Et puis nous sommes lundi et lundi c'est le moment où on lit grâce aux précieuses recommandations des libraires de M. Lirenjou. Aujourd'hui, direction le rayon littérature jeunesse avec Fanny.
M. Lirenjou à Château-Gontier vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un album coup de cœur, le projet Barnabus, aux éditions Little Urban, écrit et illustré par The Fan Brothers. Alors, The Fan Brothers, il s'agit de deux frères qui font vraiment de très jolis albums, souvent très jolis donc, au niveau de l'illustration, mais pour le fond aussi. Et vraiment, dans cet album, nous allons creuser deux valeurs. C'est-à-dire le respect de la différence et du handicap. Enfin, en tous les cas, on va réfléchir à ces notions-là. Et puis, la valeur de l'entraide, de la solidarité. Nous faisons connaissance avec un petit être étrange, un petit, tout petit éléphant, mi-éléphant, mi-souris. Et on voit dès la couverture que ce petit animal est sous cloche. Et on devine dès l'entrée de jeu qu'en fait, il y a d'autres petits êtres comme lui, un peu différents, un peu hybrides. Donc, on peut parler de handicap, hein, qui ont quelque chose qui ne va pas bien, mais ils sont là, ils ont le sourire pour la plupart. Cependant, ils sont tous sous cloche et on comprend qu'ils sont dans un laboratoire gardé très, très, très en retrait, à l'abri des regards. Et arrivent des hommes en vert un jour qui viennent mettre des étiquettes sur les bocaux, étiquettes où il est écrit « raté ». Et notre petit éléphant du début, grâce à un petit insecte qui lui est libre et vient lui parler de l'extérieur, va tout à coup réaliser que en dehors de ce laboratoire, il y a une autre vie, un autre monde possible. Et il va réussir à s'échapper, à casser son bocal et tout de suite, il va penser à ses amis qui sont aussi emprisonnés. Parce qu'il a compris là qu'ils sont emprisonnés et surtout que quelque chose les attend qui n'est pas très rigolo, quoi. Et donc, il va aider ses amis à s'échapper aussi et ensemble, parce que c'est vraiment, comme je vous disais au début, l'objectif de cet album, c'est de voir que eh bien, tout peut paraître impossible, mais quand on se met à plusieurs, quand on s'entraide, tout devient réalisable. Et c'est ce qui se passe dans cet album. On va suivre ces petits personnages dans leurs différentes pérégrinations, parce que bon, ce n'est pas si simple de sortir de ce laboratoire enterré, avec plein de labyrinthes sous terre. Mais ils vont y arriver, et ils vont arriver dans la vraie vie, dans une ville où ils vont aussi rencontrer tout un tas d'obstacles. Mais de nouveau, ensemble, ils vont dépasser chaque épreuve. Donc c'est un album un petit peu long, mais je trouve extrêmement bien équilibré, qui est très joli au niveau des couleurs, de l'inventivité. Alors, peut-être que certains parents me diront, et je sais à l'avance, qu'ils vont avoir peur, que ce soit un petit peu angoissant, mais je suis persuadée qu'il faut dépasser ça, parce que vraiment, ce qui ressort de l'album, c'est beaucoup de force, de beauté. Voilà. Donc, alors, peut-être à partir des enfants, surtout pour les enfants à partir de 6, peut-être 7 ans, et même plus, finalement. Ça peut être lu tout seul aussi, parce que c'est écrit assez gros, c'est assez aéré, et c'est magnifique. Il s'agit donc de Le projet Barnabus aux éditions Little Urban par The Fan Brothers.
Retrouvez M. Lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Montier, ou, et sur l'autre radio.
Et la semaine prochaine, on parlera BD avec un ou plusieurs coups de cœur à découvrir toujours le lundi. Cette semaine, on vous propose de découvrir la réserve du Musée des sciences de Laval. Inaccessible au public, nous avons pu bénéficier d'une visite un peu privilégiée des quelques 130 000 pièces conservées dans cette réserve, entre fossiles de plusieurs milliers d'années, minéraux et animaux naturalisés. Notre guide, c'est Roch-Alexandre Benoît. Il est assistant de conservation du patrimoine au Musée des sciences.
Alors là, on est dans un bâtiment qui s'appelle le Musée des sciences et en fait, on est dans les sous-bassements du bâtiment. Il y a vraiment toutes les collections en fait, du musée qui vont être présentes ici. Donc ça représente près de 130 000 à 150 000 pièces. Alors c'est pas nous qui les avons réunies, mais ça va être différents donateurs qui vont avoir fait ces dons-là à travers les années. Et la plus grosse partie des collections, à savoir surtout d'ailleurs les fossiles, ont été amassées à la fin du 19e ou début 20e, surtout fin 19e, par du coup le couple Daniel et Pauline Euler, qui étaient donc les premiers conservateurs, on va dire, du musée. La plus grosse partie a été ramassée à ce moment-là, donc soit directement par les Euler, soit par des personnes qui leur ont envoyé des spécimens pour les étudier, ou des échanges vraiment standards là-dessus. Mais sinon, il y a encore des donateurs après coup qui ont donné justement des parties de collection, comme par exemple les collections d'insectes, d'autres parties de collection de fossiles. On a des choses qui viennent du musée de Vitré aussi, qui ont été ramenées ici. Globalement, c'est rangé par type de collection. Il va y avoir des meubles où il va y avoir vraiment que des espèces naturalisées, par exemple. Donc un meuble pour les mammifères, des meubles pour les oiseaux. Il va y avoir les collections de minéralogie également, qui vont être dans des vitrines vraiment pour elles. Il va y avoir les collections de paléontologie qui prennent la majeure partie de la place et qui, elles, vont être un peu présentes partout dans les collections, mais dans des meubles avec des noms et des numéros. Donc comme ça, on peut les repérer. Dans les minéraux, on a près de 3000 échantillons en tout, donc des plus ou moins petits et vraiment des choses assez grosses. Le but, c'était d'avoir vraiment une idée de tous les minéraux qu'on peut trouver, notamment en Mayenne, mais il y a aussi des choses qui viennent de plus loin. Donc là, par exemple, on a un fragment de roche qui vient donc de la mine de la Lucette et en fait qui va contenir quelques petites paillettes d'or. Ça existe et on sait qu'il y a eu de l'or du coup à cet endroit-là. De la Lucette, on va également avoir des échantillons plus gros qu'on va appeler de la stibine. Donc c'est un composé d'antimoine qui sert à la fabrication de diverses choses comme les plaquettes de frein ou certains explosifs. Et cette mine de la Lucette justement était très connue à la fin du 19e et début 20e et qui a été très très exploitée pour la stibine puis pour l'or. Après on va voir pas mal de choses. On a par exemple là du soufre qui vient donc de Sicile. Et du coup, quand on peut faire des expositions autour des minéraux, c'est toujours bien de pouvoir présenter ce genre de pièces. Ça donne vraiment un aperçu de ce que c'est. Jaune fluo, on ne peut pas le rater dans la collection celui-là. Alors le reste, on a des collections de mammifères, on a des collections d'oiseaux, on va avoir des squelettes également. Donc on a des singes, on va avoir des mâchoires de requins aussi. On a des coraux également. On a des têtes de certains mammifères qui sont assez particulières. On a également des collections techniques. Donc ça peut aller des vélos jusqu'à des appareils de mesure physique plus ou moins récents. Ça peut être très ancien, puis des choses qui vont avoir jusqu'à 40-50 ans maintenant. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
Et on s'intéresse demain plus particulièrement aux fossiles d'animaux très présents de la réserve du musée puisqu'ils représentent à peu près la moitié de la collection. Et on termine comme d'habitude avec notre rubrique initiative, Claire, une galette des rois solidaires à Saint-Denis-de-Gâtines.
C'est ce que propose la boulangerie Passard et l'amicale des sapeurs-pompiers. En effet, pour une galette des rois achetée, 1 euro sera reversé à l'œuvre des pupilles orphelins. C'est une association qui assure la protection morale et matérielle des orphelins de sapeurs-pompiers décédés. Selon le délégué mayennais Philippe Lemétayer, l'association prend en charge 14 familles en Mayenne et 20 jeunes. L'argent récolté servira à accompagner la scolarité de ces jeunes et leur assurer, par exemple, des séjours de vacances. L'opération commence dès aujourd'hui et se déroulera jusqu'au 31 janvier.
Comment être gourmand et solidaire en même temps ? Nos musées préférés sont fermés, mais le musée du château de Mayenne innove, Claire.
Et oui, rendez-vous sur la chaîne YouTube Château Mayenne pour partir à la découverte d'objets ou de pièces iconiques du château de Mayenne. Des vidéos courtes entre 2 à 4 minutes vous attendent pour vous faire découvrir les mystères du château. Aujourd'hui est sortie la 8e vidéo, comme sujet Lola, la salle de réception du palais carolingien, le tout commenté par Mathieu Grandet, le directeur du musée. Mais vous pouvez retrouver sur leur chaîne les jeux de société médiévaux ou encore sur le donjon du château. Bref, de quoi patienter avant de pouvoir voir tout ça en vrai, à retrouver pour rappel sur YouTube avec le nom Château Mayenne.
Merci beaucoup Claire, donc pas mal de petites choses à manger du coup, à déguster, mais aussi à profiter, à regarder. On a aussi un compte sur YouTube, oui sur YouTube aussi, mais c'est pas le plus important, surtout sur Twitter et sur Facebook, évidemment au nom de l'autre radio. N'hésitez pas à nous laisser plutôt vos initiatives par téléphone sur notre répondeur. Donc toujours le même numéro, on le rappelle, le 09 70 40 59 40. C'est la fin de notre première émission 2021, l'AJT du local. Merci beaucoup Claire.
Merci Marie, merci tout le monde et à demain.
Et puis à demain évidemment, à suivre à l'antenne à 19h Solénoïde et à 20h ce sera la discothèque de Duro, si j'ai bien lu, en tout cas une de nouvelles découvertes musicales à venir. Et nous on se retrouve donc demain à 12h15 comme d'habitude, très bonne fin de journée à tous.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.